C'est pas toujours facile de choisir le sujet d'une prédication. Et comme je prêche plusieurs dimanches de suite, je me suis dit que ça serait bien de faire quelque chose d'un peu suivi. Et comme j'avais initialement à cœur un petit passage du Sermon sur la montagne, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aborder plusieurs parties de ce discours de Jésus dans différentes prédications. On connaît, je pense, assez bien les éléments principaux du passage, ou en tout cas certaines parties. Qui connaît le Notre Père ? Personne ? Bon, tant pis. Alors. C'est dans le Sermon sur la montagne. Qui connaît l'histoire du fou qui construit sa maison sur le sable et du sage qui construit sa maison sur le roc ? C'est dans le Sermon sur la montagne. Qui connaît le commandement d'être sel et lumière ? C'est dans le Sermon sur la montagne. Etc. etc. On en connaît beaucoup de passages de ce célèbre sermon. Ce n'est pas un passage théologiquement ardu, avec des concepts ou une écriture difficile, comme pourraient parfois l'être les épîtres de Paul, par exemple. Ce n'est pas un passage non plus, je pense, avec des images complexes ou des références historiques que nous avons peut-être du mal à saisir, comme dans certains livres prophétiques ou l'Apocalypse. Pourtant, je trouve que c'est un des passages les plus difficiles de la Bible. Un des plus difficiles parce que c'est sûrement l'un de ceux qui nous reprennent le plus. Un de ceux qui nous remettent en cause le plus. Dans nos paroles et dans nos actes, mais plus intimement encore, dans nos pensées et dans nos motivations profondes. Et ça, c'est clairement dérangeant, vous ne trouvez pas ? Peut-être qu'il n'y a que moi qui ne suis pas aussi parfait que le Seigneur le voudrait. C'est vrai, je n'ai pas encore atteint le niveau. Et c'est pour cela que je trouve difficile de le choisir comme sujet de prédication. Il y a de quoi prendre peur en le relisant et en le méditant et en considérant sa vie à la lumière des attentes du Seigneur qui y sont exposées. Et vous, le sermon sur la montagne, qui connaît bien et qui arrive, pas trop mal, à le mettre en œuvre ? Pas facile, n'est-ce pas ? Dans les généralités, on peut noter que Matthieu précise bien que ce sermon se passe sur une montagne, parce que son évangile est à l'époque premièrement à l'intention des Juifs. Et il fait ainsi un parallèle entre Moïse, qui est monté sur une montagne pour recevoir l'enseignement primordial de Dieu, et Jésus, qui est monté sur une montagne pour donner l'enseignement primordial de Dieu. Car le sermon chez Matthieu, c'est en effet le premier discours qui soit rapporté, le premier enseignement mis en avant, comme un condensé de l'enseignement de Jésus, de la base, pour le disciple de Jésus et en particulier de son éthique de vie. L'éthique du chrétien, ou comment vit-on dans le royaume de Dieu ? L'éthique, c'est un mot bien à la mode de nos jours, mais bien au-delà et bien avant l'effet de mode actuel, il y a 2000 ans, Jésus en parlait déjà. Et c'est sûrement pour cela que ça nous remet fortement en cause, car avec lui, on est loin du blabla. C'est du concret, du vécu, du quotidien. Comment être heureux ? Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi suis-je sur terre ? Comment faire pour bien faire ? Comment être pour bien être ? Etc., etc. Des questions majeures que tout à chacun se pose, ou devrait se poser, je pense. Et ce passage, ce sermon, apporte des réponses de fond et des réponses pratiques, voire trop pratiques des fois, peut-être, trouvera-t-on. Des réponses pratiques qui sont aussi des réponses de fond, bien mieux que de la haute philosophie ou théologie. Ça s'étale sur 3 chapitres dans l'évangile de Matthieu, donc on ne va pas tout lire ce matin. On va quand même lire le chapitre 5, c'est déjà beaucoup, mais ça nous rafraîchira la mémoire. Et de toute façon, il vaut mieux peut-être lire les Écritures que m'écouter parler. Mais je vais quand même dire quelque chose après, hein, n'inquiétez pas. On mettra l'accent sur quelques points particuliers. D'abord, lisons le chapitre 5, les 16 premiers versets. Chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. D'abord, jusqu'à ce verset 16 sur le chrétien dans le monde avec les béatitudes, explication de ce qu'est le vrai bonheur aux yeux de Dieu. On ne peut que constater que c'est une définition qui est bien loin de celle que l'on donnerait, humainement parlant, et qui nous retourne complètement, tant ce que Jésus expose peut sembler paradoxal à première vue, et contraire à nos aspirations peut-être. Je ne m'y étendrai pas, notre frère David Dixon a prêché dessus assez récemment. C'était le 22 avril, et c'est enregistré, et c'est sur le site internet de l'Église, alors je vous invite à aller le réécouter. Retenez simplement la première béatitude, qui souligne que la reconnaissance de sa pauvreté spirituelle, c'est la porte d'entrée au royaume de Dieu. Le prérequis pour tous, pour une relation rétablie et une communion restaurée avec Dieu. Et donc la clé pour être vraiment heureux. Et notez aussi que c'est le seul verbe qui est au présent dans ces béatitudes, contrairement aux autres versets qui sont au futur. Quand il est parlé du royaume de Dieu, il est accessible au présent, aujourd'hui. Le royaume des cieux appartient déjà à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres et donc reconnaissent leurs besoins de l'Esprit de Dieu. On le soulignera encore par la suite. Et la partie qui évoque ce sel et cette lumière que nous sommes appelés à être, là encore, je ne m'y étendrai pas. Notre frère Pierre-Yves Chaussin avait aussi prêché dessus il y a quelque temps. Et là encore, je vous invite à aller écouter l'enregistrement sur le site internet de l'Église. C'était le 21 février 2016. Si vous ne vous souvenez plus de ces dates, enfin, ça se trouve assez facilement sur le site. Retenez simplement que si on est sans saveur, sans éclat et sans fruit, alors on a peut-être des questions à se poser. Et on doit certainement se remettre au pied de Dieu. Mais nous allons, nous, dans la deuxième partie de ce chapitre, du verset 17 au verset 48, qui aborde l'éthique du disciple. Car c'est en effet un enseignement que Jésus a essentiellement donné à ses disciples, comme le souligne le texte, même si toute la foule a aussi entendu. Et je vous invite à lire ces versets. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprime l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, celui qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dit à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec lui, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as ordonné, déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre au blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, ou non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ce qui m'a poussé à aborder le sujet ce matin, c'est notamment ce qui m'est arrivé le week-end dernier. Mon frère avait gentiment proposé de prendre notre fils Vincent quelques jours pour qu'il puisse s'amuser avec son cousin. Mais comme lui, il n'a qu'une voiture commerciale avec deux places, on devait lui prêter une voiture. Notre vieille Golf, normalement. Mais comme elle avait un problème de pot d'échappement que je n'avais pas fini de réparer, je lui ai prêté notre petit camping-car en lui précisant de faire bien attention. Et évidemment, il a eu un accrochage. Alors, pas grave, vous me direz, juste la roue explosée, l'aile abîmée, quelques petits trucs comme ça. A priori, il n'était pas en tort, mais comme il a mal rempli le constat, il est possible que l'assurance décide que je sois co-responsable, que j'ai du malus. Ouh, que ça m'énerve, ce genre de choses. Ouh, que j'ai du mal à ne pas me mettre en colère contre mon frère. Et peut-être aussi un peu contre Dieu. Parce que quand même, il aurait pu ne pas permettre tout ce genre de choses, tout ce genre d'enchaînement d'événements. J'ai réussi à ne pas trop le montrer, à ne pas trop le dire. Presque pas. Mais bon, intérieurement quand même, ça a bouillonné un peu. Comme excuse, je peux dire que c'est mon tempérament méditerranéen. Évidemment, pour vous, ça aurait été chose facile de vous maîtriser, y compris intérieurement. Mais moi, j'ai encore un peu de mal. Ça ne m'arrive pas trop souvent, mais des fois, oui, ça m'énerve. Même pour des broutilles. Et oui, encore des progrès à faire. Pas vous ? L'éthique du chrétien. L'éthique, c'est grosso modo faire ce qui est bon et bien dans telle ou telle situation. Comment agir et réagir bon et bien face à tel ou tel événement ou nouvelle. Pour les Juifs en face de Jésus, à l'époque, ce qui est bon et bien, ça s'apprécie évidemment selon la loi. Avec un grand L, la Torah, reçue et transmise par Moïse, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la base d'appréciation et de comparaison, la référence. Ainsi, avant d'aborder divers exemples, Jésus énonce comment il se situe par rapport à cette loi. Et c'est le verset 17 et suivant. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour abolir, mais pour accomplir. » On le connaît bien ce verset, en tout cas dans son esprit, parce qu'on a en tête les dernières paroles du Christ sur la croix, qui dit « Tout est accompli ». Mais souvent, notre mauvaise interprétation possible de ces mots en tant que chrétien, c'est de faire table rase de tout l'Ancien Testament et de ses commandements en particulier, en pensant que plus rien ne s'applique à nous. Les versets suivants disent bien le contraire. « Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Ah bon ? Mais tout reste ou tout est accompli ? Je m'y perds un peu, moi. Ce verset dit en fait que chacune des parties de la loi reste en vigueur tant que ce qui ne permet pas son accomplissement ultime et définitif n'est pas encore arrivé. En l'occurrence, au moment où Jésus parle, alors tout est encore applicable. Mais désormais, et pour faire simple, disons que Jésus a accompli dans sa vie et dans sa mort, et sa résurrection bien sûr, tout ce qui était nécessaire et requis pour la partie cérémonielle de la loi. En particulier tout ce qui est en lien avec les sacrifices, le pardon et la satisfaction de la justice divine. Oui, tout pour que cette partie cérémonielle de la loi puisse disparaître. Elle est accomplie et nous n'avons donc plus à la mettre en pratique et l'appliquer. Par contre, tout ce qui est la partie morale de la loi est toujours en vigueur. Et ce, tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Et les exemples à suivre utilisés par Jésus en sont l'expression. Cette partie de la loi, la partie morale de la loi, est pour notre bien. Et le bien du monde, et bien évidemment, est toujours conforme à la volonté divine, puisque c'est lui, Dieu, qui l'a donné et institué. Ça peut paraître très moralisateur, et il ne s'agit pourtant pas d'être légaliste, bien sûr que non. Même si malheureusement, c'est ainsi que nos contemporains voient souvent l'Église ou la Bible. Fais ceci, fais pas cela. Mais au verset 20, Jésus appuie bien là-dessus. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les scribes avaient une très grande connaissance des règles à suivre. Les pharisiens étaient la secte juive la plus stricte dans ses exigences rituelles et cérémonielles. Comment pourrait-on être plus juste que les scribes et les pharisiens ? Leur justice, selon le reproche bien connu de Jésus, n'était qu'un comportement visible, une hypocrisie, une conformité extérieure et pas un élan de cœur ou quelque chose profondément motivé par l'amour de Dieu ou l'amour du prochain. Quelle est notre justice ? Et justice dans toutes les dimensions de la justice biblique, légale, morale, sociale. La justice légale, c'est la justification, le rétablissement de la relation avec Dieu. En la matière, Christ est notre justice. La justice morale est celle de toute personne qui, dans sa conduite, manifeste la volonté de Dieu. Et la justice sociale, c'est celle qui veut libérer de l'oppression, qui promeut les droits civils, la justice dans les tribunaux, mais aussi l'intégrité dans les affaires, la conduite honorable dans le foyer et les affaires familiales, etc., etc. Il peut y avoir tout cela derrière ce petit mot dans la Bible. Ça fait beaucoup de choses à respecter quand même. Et justement, Jésus n'était-il pas encore plus pharisien que les pharisiens dans ses exigences et ses attentes à notre égard ? Non seulement il demande un respect de la loi à la lettre, mais encore plus, un respect de la loi selon son esprit et selon son intention profonde. Ce qui est encore plus exigeant. C'est une loi encore plus radicale qu'il place devant nous, encore plus radicale, non ? Vous avez appris qu'il a été dit ? Mais moi, je vous dis, on a cela au verset 21 et suivant, 27, 31, 38, 43, 5 exemples concrets donnés par Jésus. 5 exemples à suivre, mais carrément 5 exemples impossibles à suivre, moi je dirais, non ? En tout cas, j'ai raté l'examen plusieurs fois cette semaine. Des exemples bien concrets qui poussent loin le curseur. Le monde interdit le meurtre. Jésus fait un parallèle avec la colère et l'insulte. Le monde interdit l'adultère, interdisait en tout cas. Jésus met sur le même plan la convoitise. En gros, on dit « ne fais pas le mal », ce qui n'est pas évident. Mais Jésus oppose « ne pense pas le mal ». Le monde dit « ne te venge pas de manière excessive ». Mais Jésus ordonne « ne cherche jamais à te venger ». Si le monde prône l'amour des amis, Jésus, lui, nous commande carrément d'aimer nos ennemis. Et si le monde dit de tenir nos serments, Jésus dit qu'on n'a pas besoin de faire de serments, car nous devons toujours être vrais dans nos paroles, dans nos actes, fidèles à notre parole et donc dignes de confiance. C'est ainsi que les relations seront pures, que les réconciliations seront possibles, que la vérité régnera, que l'on gagnera l'autre à la justice et que l'on sera véritablement fils du Père. Waouh ! Mission impossible. Mission impossible. Mission impossible sans que l'on ait compris cette première béatitude dont on a parlé tout à l'heure. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et oui, ce texte forme bel et bien un tout cohérent. Pas moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, et on le sait, notre justice ne nous le permettra jamais. Mais le royaume des cieux est néanmoins à nous, car nous avons reconnu être pauvres en esprit. Oui, nous avons en effet reconnu être spirituellement pauvres et ne pas pouvoir nous élever vers Dieu par nos propres capacités et mérites. Ainsi, notre justice, en fait, ce n'est pas la nôtre, c'est la justice de Dieu. Et c'est seulement pour ça que nous sommes dans le royaume des cieux. Et je souligne encore le verbe au présent. Nous sommes dans le royaume des cieux. La vie éternelle se vit déjà dès maintenant. Et ce n'est pas seulement une promesse future. En sommes-nous bien conscients ? Ok, mais alors, comment on vit dans le royaume des cieux ? Tout simple. Il n'y a qu'à suivre les indications de Jésus. Tout simple. Ô Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je suis encore timoré, mais je ne devrais pas. Le Saint-Esprit vit en moi, comme on l'a rappelé tout à l'heure. le Saint-Esprit vit en moi. Et sans orgueil aucun, je peux désormais dire que je suis riche en esprit, mais par grâce divine uniquement. C'est vrai, cette loi que Jésus prône, en particulier dans ce sermon, est une loi inaccessible sans la grâce. Avec la grâce, elle l'est. En fait, la Bible dit toujours la même chose, me faisait remarquer quelqu'un dernièrement. Toujours la même chose de façon différente. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il y a encore des gens qui n'arrivent pas à la comprendre. C'est vrai, la Bible dit que nous sommes toujours que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais pourtant, ce n'est pas avilissant, ce message. Car s'il y a bien quelqu'un qui ne veut jamais nous rabaisser, c'est bien Dieu. Il veut juste que nous ayons une position juste, la bonne place. Et c'est une place de choix qui nous est proposée dans ce passage. Le but exposé par Jésus, ici, n'est rien moins que de retrouver notre place telle que prévue par Dieu dans le plan initial qu'il avait pour l'humanité. À savoir, devenir pleinement image de Dieu. Devenir pleinement image de Dieu. Je le répète très souvent. Trop souvent ? Mais non, pas trop souvent. Le programme de Dieu pour nous est un beau programme, extraordinaire même. Le verset 45 le rappelle, « Afin d'être les fils de votre Père céleste. » C'est pas rien quand même, on le réalise. Verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Soyons image de Dieu. Laissons-le nous transformer à son image. Qui parmi nous a ce profond désir ? Qui parmi nous a ce profond désir ? N'hésitez pas à le reconnaître, ce n'est pas honteux. C'est au contraire un noble désir, un divin objectif. Ce que prône Jésus n'est pas une nouvelle loi, c'est le chemin vers ce que je suis déjà et ce que je dois laisser se révéler. Sommes-nous différents des non-croyants ou des hommes et femmes du monde ? C'est la question de la fin du chapitre, la question qui tue quand même. Ou peut-être la question qui fait vivre, car elle est salutaire. Posons-nous vraiment la question. Sommes-nous différents des non-croyants ou des hommes et femmes du monde ? Je l'ai déjà souligné, pour ce qui est de notre être, oui, nous le sommes différents. Une prière l'a dit aussi tout à l'heure, nouvelle créature, nouvelle nature, enfant de Dieu, nous sommes fondamentalement différents. Ouais, mais en pratique alors ? Nos semblables, dans leur majorité, ne sont ni adultères ni assassins. Pour la plupart, ils accomplissent leurs devoirs, aident leurs prochains, donnent aux pauvres ou prêtent à leurs amis. Et Jésus interroge, nous interroge, en quoi êtes-vous différents d'eux ? En quoi êtes-vous différents d'eux ? A-t-on du mal à bafouiller une réponse ? Une réponse qui est souvent peut-être plutôt une excuse ? C'est régulièrement mon cas. Mais dans ce passage, Jésus dit « Chrétiens, proposez une alternative au monde. Présentez, vivez une contre-culture, contre la culture ambiante, et même contre nature, contre la mauvaise nature humaine. Prenons, vivons, un retour à l'esprit de la loi. Une loi qui est en fait une loi d'amour, pas naturellement le nôtre, mais l'amour de Dieu. » L'amour venant de Dieu est celui que l'Esprit de Dieu met et veut répandre en nous. Ce n'est pas juste automatique, il faut aussi le vouloir. Oui, l'Esprit doit nous transformer, nous reformater. Démarquons-nous en suivant les enseignements de Jésus. Sans avoir l'objectif de nous rendre visible, nous, mais bien de le rendre visible, lui, évidemment. Comment faire pour bien faire ? Dans la même lignée de ces paroles de Jésus, l'apôtre Paul écrivait, en Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Facile à dire, pas facile à faire. Comment faire pour bien faire ? Au IVe siècle, saint Augustin ajoutait « Aime, aime, et fais ce que tu veux. » si on aime, ce que l'on veut sera assurément en adéquation avec cet amour. Facile à dire, pas toujours facile à faire. Mais Dieu, dans sa grâce, me travaille dans ce domaine en particulier, et j'en suis sûr, vous travaillez aussi dans ce domaine particulier. Pour ce qui me concerne, d'autant plus, parce qu'en ce moment, on a de la famille à la maison, et une famille qui ne connaît pas Dieu. Comment être différent dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre, notre façon de réagir? Je ne sais pas si je suis à la hauteur, si je suis différent, mais heureusement, je sais que Dieu, lui, le sera. Ça marche pas toujours. Hein. Cette semaine encore, pour appliquer ce principe, j'ai à nouveau essayé de reprendre contact avec quelqu'un de ma famille avec qui il y a un froid depuis 35 ans, avec mon père. Je ne sais pas si j'ai bien agi ou réagi à l'époque. Disons simplement que j'avais du mal à lui montrer de la sympathie et de l'amour quand il a quitté ma mère suite à un adultère. Je ne peux pas dire qu'il me manque, car depuis le temps, ma vie s'est construite sans lui, mais j'ai fait la démarche de pardon depuis longtemps dans mon cœur et par écrit envers lui. Mais en tant que chrétien, désormais, je ne peux pas me satisfaire de ce non-contact. Et je regrette son rejet de Dieu, bien sûr, aussi, et ça m'attriste en pensant à son avenir éternel. Pour faire court, c'est encore une fin de non-recevoir de sa part, assez virulente en fait, mais la démarche était aussi nécessaire, et une suivante le sera sans doute encore à l'avenir. Ainsi comme on l'a rappelé aussi, la prière. Prière régulière pour que Dieu continue à transformer les cœurs, et pas seulement celui du voisin, le mien en premier. Pour que je puisse devenir conforme à son enseignement. Et ensuite, je suis en paix. Je suis en paix et libre par rapport à cela. Car aussi, un des objectifs de Jésus dans cette façon de réagir, qui n'est pas celle qui est naturelle pour nous ou celle que le monde prône, c'est de nous donner la paix et de nous rendre libres par rapport à telle et telle situation, telle et telle et telle tension. Et seul Dieu peut vraiment permettre cela. Aimer l'autre pour le libérer du cycle de la violence, s'il le souhaite, ce qui n'est pas toujours acquis. S'aimer aussi soi pour se libérer. Ça n'a l'air de rien, mais ces paroles de Christ, si on se les approprie vraiment, si on les met en œuvre, elles sont vraiment révolutionnaires. Pour les autres souvent, mais pas toujours, mais pour nous en tout cas, c'est à tous les coups. Peut-être tu peux afficher l'image que j'ai mis en bas des... un petit schéma, je ne sais pas si vous le voyez. Pas le temps de le prendre en détail, mais vous pourrez le regarder, puis je le transmettrai par mail si vous voulez. Un petit schéma sur cet amour qui casse les spirales. On me fait du mal, ça marche ? Si tu vas dans Vidéopsalm et tu... c'est tout en bas. Clique dessus, tout à l'heure ça marchait. Ça doit... T'es en mode projection ou pas ? Je vous l'enverrai, tant pis. La force est en Christ en tout cas, c'est ça qu'on doit retenir. Et pour conclure, ça m'a fait penser aussi à un chant, un vieux chant du premier recueil de J'aime l'Éternel, qui dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et c'est vrai qu'on pense souvent qu'un exploit, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est traverser la mer Rouge à pied sec. Bon, c'en est un évidemment. On pense aussi souvent qu'un exploit, c'est seulement guérir un malade ou faire un miracle X ou Y. Mais à bien y réfléchir en relisant ce passage du Sermon sur la montagne, en relisant les attentes que Dieu a de nous par rapport à cet amour à manifester, je pense que parmi les plus grands exploits, il y a celui de pouvoir être en paix quand on subit l'injustice. Un grand exploit, c'est d'être pur dans toutes ses pensées. C'est de pouvoir être vrai dans tous ses engagements, c'est de pouvoir pardonner l'impardonnable. De pouvoir aimer celui qui n'est pas aimable, ça c'est de l'exploit, non ? Et un exploit à notre portée, parce que Dieu veut nous transformer. Non mais on parle que de Jésus là quand même. Il n'y a que lui qui a réussi à faire ça parfaitement. Oui, lui, il a réussi, c'est vrai, mais pas que. Jean rajoute aussi dans son évangile une parole de Christ qui dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Quelle promesse, quelle belle promesse. Et tous ces commandements qu'on peut lire comme un fardeau dans le sermon sur la montagne, on peut aussi les lire comme des promesses. Dieu nous donne cette promesse qu'avec son esprit, nous pourrons faire ces exploits de pardonner, d'aimer. Merci Seigneur de ton aide. Amen. Merci Seigneur pour ton esprit qui transforme les vies. Et c'est pas égoïste en disant cela, mais merci parce que tu transformes ma vie. Et j'aimerais tant que tu transformes encore la vie des gens autour de moi. Transforme encore la vie de nos frères et sœurs ici présents ce matin. Que chacun, chacune d'entre nous, nous te laissions pleinement prendre toute la place en nous. Oui, nous sommes pauvres en esprit de nous-mêmes, mais nous sommes riches avec ton esprit. Merci parce que tu nous permets de pardonner, même l'impardonnable. Tu nous permets d'aimer même celui qui n'est pas aimable. Ouais, nous avons déjà fait beaucoup de progrès, il y a encore beaucoup à faire. Merci pour ta patience, pour ta fidélité, pour ton aide. Et je te rends grâce, je te remercie pour ta parole, pour ce sermon sur la montagne. Ah, la montagne est souvent dure à gravir, mais merci parce que tu nous tiens la main et tu nous aides à grimper. Merci pour tout ce que tu transformes dans nos vies. Merci de nous aider à être une bénédiction autour de nous. Merci de bénir tous nos proches et nos ennemis aussi. Pour ta gloire, Seigneur, pour que tu puisses resplendir, que ta lumière puisse luire. C'est toi le sel et la lumière bien avant nous. Merci pour cette grâce de te connaître. Merci parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Amen.